Chapitre 8. La variation et ses causes. La variation est une chose d'observation courante. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent absolument, et si l'on créait par la pensée un type moyen réunissant tous les caractères des hommes, chaque individu de notre espèce différerait de ce type moyen par une majoration de certains caractères et par une diminution de certains autres. À mesure qu'il naît de nouveaux individus, on constate donc, pour chaque caractère, une oscillation autour d'une certaine moyenne et souvent même des divergences fortement accentuées. Nous sommes plus habitués à observer cette variation dans l'espèce humaine, mais elle a lieu également dans les autres espèces et il vaut mieux, dans le cas présent, choisir nos exemples chez les animaux qui ne sont pas, comme nous, soustraits par les avantages de la vie sociale à l'action de la sélection naturelle. Chez les animaux supérieurs, qui ne se reproduisent que par fusion d'éléments de sexe différents, un jeune tient toujours certains caractères de son père et d'autres de sa mère. On est en droit d'affirmer que si tel père a eu un jeune donné A de son accouplement avec une femelle donnée, il eût eu un jeune différent B de son accouplement avec toute autre femelle, précisément parce que toutes les femelles sont différentes, comme d'ailleurs aussi tous les mâles. Il y a donc, dans la reproduction sexuelle, un élément certain de variation individuelle autour d'un type moyen, par suite des différences préexistantes entre les individus de même sexe d'une espèce donnée. Seulement, vous pouvez voir facilement que si la reproduction sexuelle entretient la variété des types, elle ne la crée pas. Si toutes les femelles étaient identiques, le même mâle pourrait leur donner des produits identiques. Si tous les mâles étaient aussi identiques entre eux, les croisements ne produiraient plus de variation. Mais il faut immédiatement remarquer que cette supposition est absurde, puisque par suite même de l'évolution individuelle qui est sa vie, le même mâle diffère de lui-même à deux époques distinctes de son existence, de même la même femelle, et c'est pour cela que deux jumeaux se ressemblent toujours plus que deux frères d'âge différent. Il est donc bien certain que la génération sexuelle entretient la variété des individus dans une espèce donnée, mais c'est seulement par une série d'oscillations autour d'un type moyen, tandis que pour les néo-darwiniens, l'amphimixie est la source la plus importante des variations. Nous avons vu quel abus Weismann a fait de cette fusion d'éléments différents dans sa théorie des plasmas ancestraux et l'explication de la complication progressive des organismes. Rien n'est plus trompeur que cette divergence progressive des descendants d'un même couple, au moins en tant qu'elle est uniquement basée sur les mélanges successifs des plasmas germinatifs de Weismann. On ne s'y laisserait pas si aisément prendre si l'on regardait en arrière par le même procédé qu'en avant. Voici un homme, il y a deux siècles, en 1698. Je suppose qu'il ait eu deux enfants, puis chacun de ceux-ci deux enfants et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui pendant 8 générations. Ses descendants de la 8e génération sont aujourd'hui au nombre de 2 puissance 8 ou 256, et il y a entre ces individus, tous différents, de grandes différences individuelles résultant des mélanges de plasmas germinatifs. Mais, au lieu de descendre, remontons de 2 siècles. L'homme considéré en 1698 a eu 2 parents. Chacun de ceux-ci en avait 2, et ainsi de suite, de telle manière qu'en 1498, il y avait 256 individus, desquels est descendu, au bout de 8 générations, l'homme considéré. Voyez-vous une raison, dans la théorie des plasmas ancestraux, pour qu'il y ait eu plus de différences individuelles entre les 256 descendants qu'entre les 256 ascendants de notre individu? La génération sexuelle ne fait que remanier les caractères différentiels préexistants. Elle n'en crée pas. Au contraire, on tend de plus en plus à admettre que le résultat de l'amphimixie est de fixer le type moyen des espèces en faisant disparaître les variations fortuites. Supposez maintenant qu'une branche de la famille de tout à l'heure soit allée s'installer en Algérie, il y a 6 générations, et y soit restée depuis. Il y aura aujourd'hui 2 puissance 6, c'est-à-dire 64 descendants de notre homme qui seront des Algériens, et qui différeront des 192 autres descendants du même ancêtre par des caractères acquis sous l'influence des conditions de milieu. Et cela nous conduit immédiatement à la théorie de Lamarck et des néo-lamarckiens. Darwin ne repousse pas ce genre de variation, mais il fait à son sujet quelques restrictions, comme le prouvent les passages suivants. On peut attribuer quelque influence, peut-être même une influence considérable, à l'action définit des conditions d'existence, mais nous ne savons pas dans quelle proportion cette influence s'exerce. On peut attribuer quelque influence, peut-être même une influence considérable, à l'augmentation d'usage ou du non-usage des parties. Dans quelques cas, le croisement d'espèces primitivement distinctes semble avoir joué un rôle fort important dans la formation de nos races. Et, plus loin, quelques auteurs emploient le terme « variation » dans le sens technique, c'est-à-dire comme impliquant une modification qui découle directement des conditions physiques de la vie. Or, dans ce sens, les variations ne sont pas susceptibles d'être transmises par hérédité. C'est la négation formelle du lamarckisme. Voici cependant un autre passage qui contredit à peu près le précédent. Toutefois, il ne faut pas oublier que certaines variations fortement accusées, que personne ne songerait à classer comme de simples différences individuelles, se représentent souvent parce que des conditions analogues agissent sur des organismes analogues. Nos productions domestiques nous offrent de nombreux exemples de ce fait. Dans ce cas, si l'individu qui a varié ne transmet pas de point en point à ses petits ses caractères nouvellement acquis, il ne leur transmet pas moins, aussi longtemps que les conditions restent les mêmes, une forte tendance à varier de la même manière. On ne peut guère douter non plus que la tendance à varier dans une même direction n'ait été quelquefois si puissante que tous les individus de la même espèce se sont modifiés de la même façon, sans l'aide d'aucune espèce de sélection. On pourrait, dans tous les cas, citer bien des exemples d'un tiers, d'un cinquième ou au moins d'un dixième des individus qui ont été affectés de cette façon. Ainsi, Grabat estime que, aux îles Féroé, un cinquième environ des guillemots se compose d'une variété si bien accusée qu'on l'a classée autrefois comme une espèce distincte sous le nom d'Uria lacrymans. Quand il en est ainsi, si la variation est avantageuse à l'animal, la forme modifiée doit supplanter bientôt la forme originelle, en vertu de la survivance du plus apte. Et aussi, pourrait-on ajouter certainement, en vertu de l'hérédité des caractères acquis sous l'influence directe des conditions de milieu. Darwin l'accorde d'ailleurs à la fin de son ouvrage, dans un passage ajouté à l'édition définitive, pour répondre à des objections faites aux éditions précédentes, passage qui contredit formellement celui de la page 46 citée plus haut. Ces modifications ont été effectuées principalement par la sélection naturelle de nombreuses variations légères et avantageuses. Puis les effets héréditaires de l'usage et du défaut d'usage des parties ont apporté un puissant concours à cette sélection.